Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Vallée-Vézère. Ce soir, CLBDTC, c'est le bordel dans ta chambre, reçoit Jérôme Hutin, puisque nous l'avons déjà reçu dans les studios de Radio Vallée-Vézère et on se permet de refaire une petite émission spéciale ce soir avec Jérôme pour qu'il nous parle d'écologie, il nous parlera des arbres, il nous parlera de photographie, il va nous parler de plein de choses et ce pendant les 50 minutes qui vont suivre. Sur l'antenne de Radio Vallée-Vézère. Donc vous êtes bien calé sur le 104.4, ça c'est à Terrasson, le 98.5 c'est à Sarlat, et ce soir c'est dans le micro, Jérôme Hutin. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Alexis, bonsoir Radio Vallée-Vézère.
Et ça c'est une institution. Jérôme, donc on t'a eu en interview il y a quelques semaines, hein, on va dire une petite ou une grosse semaine, on va dire sur l'antenne de Radio Vallée-Vézère, oh allez, deux semaines, trois semaines, d'accord, sur l'antenne de Radio Vallée-Vézère, tu es venu nous parler de ta passion, et la passion, tu en as deux. Tu en as une qui est la photographie, et la deuxième qui est la nature et l'écologie. Donc, est-ce que tu veux nous parler déjà de la première, c'est-à-dire de la photographie, comment ça t'est venu, et qu'est-ce qui est pour toi la base de cette passion ?
La photographie, ça fait depuis l'âge que j'ai 8 ans que je voulais voyager, voir ailleurs, et pas spécialement photographier la nature, les arbres, les animaux sauvages. Je voulais les photographier. J'avais déjà un petit appareil à cet âge-là, comme beaucoup d'enfants, je pense. Et puis, je voulais déjà partir autour du monde. Je venais de perdre mon papa, et c'est comme ça... Les aléas de la vie. Et puis après, à l'école, le collège, et au collège, à Sarlat, on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire dans votre orientation ? Et j'ai dit pourquoi pas la photographie ? Et surtout qu'à l'époque, un de mes amis, à l'époque c'était pas un ami, mais un professeur de dessin, qui est Jacques Inizan, que j'ai des fois qui nous entendent, que je lui envoie mes bons souvenirs. C'est un Breton du Finistère, que je ne savais pas. Et donc Jacques, prof de dessin, avait son labo photo dans la classe de dessin. Et je faisais du labo noir et blanc avec lui, avec les autres élèves. Et ça m'avait bien plu. Et donc, à partir de là, j'ai commencé. J'ai voulu avoir mon propre labo noir et blanc. Et après, couleur, petit à petit. Ça a commencé un peu comme ça, la photographie, capturer la lumière. Et puis, justement, il y avait un autre, au moment de l'orientation au collège, c'était en 83, quelque chose comme ça. J'ai fait mon CAP de photographe en 84. J'ai choisi Orthez, le lycée de photo d'Orthez, lycée Molière exactement. Il y avait très peu de lycées, d'écoles de photo à l'époque. On comptait ça dans le doigt de la main. Maintenant, en vois-tu qu'en voilà. Et puis, il y avait un professeur donc de ce lycée, de ce LEP, qui est Alain Delpech, qui était de Sarlat. Et lui aussi, avec mes bons souvenirs. Et Alain, je crois qu'il était venu nous voir au collège un peu pour parler du lycée. C'est vrai qu'on m'avait dit, c'est bouché comme métier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de travail, quoi. C'est très dur. Et j'ai dit, banco, je choisis la photographie. J'ai toujours aimé un peu les challenges, les défis dans la vie. J'ai toujours été hors du moule, je pense. Et bon, je n'arrive pas à être complètement dans la société. Et donc, je suis parti 2 ans à Orthez faire mon CAP de photographe, option laboratoire et prise de vue.
Donc ça, c'est la passion de la photo. Et comme tout photographe, on se spécialise ou on ne se spécialise pas dans la photographie ? Est-ce que c'est... On pense par exemple à David Hamilton qui a fait des danseuses, des jolies filles, entre guillemets, non, mais ce que je veux
en
dire, c'est David...
En soufflant sur l'objectif.
Voilà.
En soufflant pour faire la buée.
Oui, voilà, des photos un peu floues. Est-ce qu'on se spécialise dans la photographie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on mêle automatiquement une passion à une autre ? C'est-à-dire que la capture de l'image, mais est-ce qu'il faut être motivé par l'image que l'on capture ?
Je n'appelle pas... Moi, pour moi, ce n'est pas une passion. La passion, c'est normalement ceux qui ont déjà un métier, qui, à côté de ça, vont avoir leur passion. Ça peut être Rénover des vieux bateaux, ça peut être faire des vieux gréements en modélisme, ça peut être, je sais pas, s'occuper de ses bonsaïs, de faire de la peinture, de faire de la poterie et autres. Ça, pour moi, ma photographie, la photographie, quand je l'ai choisie, ça, c'est un chemin de longues années, tout ça, c'est pas fini, j'espère. Puis on ne sait pas. C'est pas une passion pour moi, c'est bien plus. Normalement, moi, j'ai toujours dit que c'était une vocation. C'est une vocation, la photographie, et avec les hauts et les bas. Donc, il faut arriver à en vivre. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, c'est galère. Des fois, on a un jackpot. J'ai jamais eu un scoop photographique. Ou alors, je n'ai pas exploité comme le fameux petit sourire du monde. Avant de photographier d'ailleurs les arbres, je faisais de la photo publicitaire. Je voulais même acheter un studio publicitaire à Paris, sans argent. On a pris combien ça coûte? J'ai voulu bosser dans les laboratoires en emploi nocturne. C'est 75% de plus que le SMIC. Bon, j'allais à Paris pour ça, mais à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas ma place. J'ai surtout pas envie, une grande ville. Donc la pub, j'ai photographié les chiens, les chats, surtout les chiens pendant plus de 5 ans, expo canine, tout, bon. Et puis, comme je disais la dernière fois, c'est la photographie de l'arbre, c'était pas prévu, j'y connaissais rien en arbre. Et c'est donc quand il y a eu le fameux recensement des arbres de la Révolution et la Liberté en Dordogne en 1989, que je me suis mis un peu dans le coup à commencer à les photographier. Et puis là, on se demande, mais c'est bien de faire un clic-clac, de photographier un arbre, même pourquoi pas un personnage, de faire un beau portrait d'un personnage. Mais c'est pour ça que je photographie très peu les gens en plus, pour d'autres raisons personnelles aussi. Mais capter la lumière dans l'œil d'une personne. Ou capter la lumière, comme disait l'autre jour Chouski, je veux dire que quand je photographie un arbre, je fais apparaître apparemment on va dire, la magnificence de l'arbre. Mais avant toute chose, il faudrait photographier aussi son écosystème. Comme si je te photographie toi, Alexis, il faut que je te photographie, je sais pas. Dans le studio d'enregistrement, dans ta vie familiale et autre, sentimentale, c'est faire de l'incruste ou des choses comme ça. Tu vois, c'est faire une belle image, ça demande plusieurs, j'allais dire plusieurs facteurs, et c'est très dur. C'est très dur. Donc on ne montre qu'une partie. Déjà, par exemple, si je reprends l'arbre, une partie de la vie de l'arbre, un arbre qui a vécu 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, moi, je suis passé là 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, plusieurs jours, des fois, ça m'est arrivé, hein, de revenir même plusieurs fois sous l'arbre. Mais c'est un coup de claquement de doigts, quoi. C'est ça aussi. Alors, c'est sûr que, pour aller direct, quand je fais des grandes photographies, 7 mètres de hauteur. Moi, on m'a toujours pris pour un rêveur. Depuis tout petit, je suis un rêveur. Mais heureusement qu'on arrive, qu'on ait la possibilité, chacun d'entre nous, de rêver. Ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui ne rêvent pas, je les plains. Je les plains parce que c'est dur de les réaliser. On les réalise pas tous. Je veux dire, quand je disais même à ma famille, de moi, je souhaite faire des projections, pas des projections, des expositions à la taille de l'arbre. Pas parce que je suis mégalo ou utopiste, ça utopiste sûrement, mégalo, quel serait l'autre terme, quand ceux qui ont des grandes idées et veulent les mettre en place, des fois avec pas grand-chose. C'est montrer, c'est donner des messages, c'est pas donner des leçons. Par rapport à ma photographie, à mon regard, quand je monte des grands, quand je projette ou qu'on expose dans le grand, c'est pas donner des leçons aux gens, parce que quand tu me parles d'écologie, je suis pour moi pas, je me sens pas un écologiste. On en parlera après. Mais Sinon, il faut que je sois dans une petite cabane avec de l'eau et du feu, comme on me disait encore hier. Mais comme j'ai pas mal bourlingué autour de la planète, je voulais voir comment ça se passait, avoir mon regard extérieur dans ce monde. Je suis revenu avec des sacrées images, comme d'autres photographes professionnels. Mais il faut tenir, quoi, parce qu'on bousille notre Terre. On bousille la planète. Et ça fait 50 ans qu'on le dit. Et encore, j'entends qu'il va y avoir une projection, je crois, à Périgueux ou je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 20 prochaines années, un truc comme ça. Je suis désolé, mais il y a 50 ans, au niveau de l'environnement, déjà, on avait tiré le signal d'alarme. Il y a 50 ans. Donc voilà, la photographie et les, quand je disais en revenant que j'étais petit, qu'on me traite de rêveur, c'est pas pour moi que je fais ça. Avant, je faisais des petites expositions, tout ça, j'en fais toujours. Et puis, il y a eu des plus grandes qui sont mises en place, qu'on m'a proposé, la ville d'Épinal, et puis d'autres villes. Mais ce qui est important, c'est d'arriver, quand c'est possible, de le partager aux autres, de partager avec les autres quand c'est possible. C'est toujours surprenant et touchant.
Ce que je ressens dans tout ton discours, finalement, là, dans ce que tu nous expliques, c'est justement ce fait de dire qu'on est tous écologistes. C'est-à-dire qu'on vit tous sur la même planète et qu'on doit tous préserver cette planète pour les générations futures, comme normalement on aurait dû les protéger des générations passées. Voilà.
Bien sûr.
Donc, est-ce que toi, au travers de tes photos, et c'est la question que j'aimerais te poser, c'est toi, au travers de cette photo, est-ce que tu as l'impression justement de donner cette image pour que les générations futures puissent avoir une image de ce qui se passe, c'est-à-dire d'avoir l'image de ces arbres en disant voilà, nous, on a vu des arbres millénaires, vous ne les verrez peut-être pas.
Bien sûr. Bien sûr, il y a ce côté-là, quand je le photographie, mais comme je disais tout à l'heure, dans les voyages, je suis parti seul, mais j'étais accompagné après sur place par plein de gens, que ce soit des arboristes, que ce soit des botanistes, que ce soit des amoureux de la nature, et aussi des activistes, qui ont vu ce qui se passe, quoi, qui voient tout le temps ce qui se passe, et on n'entend pas parler souvent d'eux. Et donc, moi, je montre des fois, bien sûr, souvent le beau, le rêve avec l'arbre millénaire. J'ai montré aussi ces photos de déforestation. J'ai fait passer, quand je fais des petites projections grand public, même au Japon, je n'ai pas hésité à montrer une vidéo sur la déforestation en Australie avec les forêts brûlées au napalm. Et quand tu dis aux Japonais, à 500 élèves japonais dans une université, que ce bois qui a été récupéré arrive au Japon, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des leçons que je fais. Ben, bien souvent, ils n'étaient pas au courant. Et puis, ils me disent merci. C'est aussi touchant, quoi.
Enfin, ça a l'air d'être compliqué quand même, Jérôme, là, je t'écoute, mais ça a l'air d'être compliqué, finalement, à la fois, de trouver un lien entre le message à faire passer et la photo artistique. C'est-à-dire que la photo artistique, c'est de dire à un moment donné, je vais faire quelque chose de beau. Et la photo qui marque et le message à faire passer, il est en même temps de dire, voilà, c'est beau parce que ça existe. Donc, il faut le maintenir. C'est un peu ce message-là que tu voudrais faire passer.
Bah, je ne sais pas. Je peux, moi, personnellement, sans orgueil, hein, sans prétention aucune, me dire, tiens, cette photo-là, je la trouve très belle. Je la trouve superbe. Elle a peut-être un message qui passe. Et les autres personnes, pas du tout. Il n'y a aucune accroche. Et en plus, c'est vrai qu'on va sortir le sujet de son contexte, de son environnement. C'est sur un support ou peu importe. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que je montre des fois des images, des projections en privé ou tout ça que j'aime bien partager parce que moi ça me donne après des idées par rapport aux réactions de chacun et de chacune. Quand voilà. Et
enfin pareil, on peut rebondir là-dessus puisque tu parles de la photographie comme d'un art et c'est un art puisque la photographie comme la peinture, comme la musique, oui. comme beaucoup de choses, c'est un art.
Oui.
Faut revenir dessus. C'est pas parce qu'on fait des selfies avec son téléphone ou parce qu'on photographie n'importe quelle chose autour de nous avec notre téléphone qu'automatiquement tout ça est de l'art ou que tout ça est joli. C'est-à-dire qu'on est en train de vulgariser aussi cette photographie qui était la photographie belle. Quand on faisait une photo de famille dans les années 30, dans les années 20, dans les années tout début 1900, c'était quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'on faisait, tout le monde mettait son plus bel apparat, tout le monde se mettait dans le plus bel attirail et on faisait cette fameuse photo pour qu'elle soit jolie, qu'elle soit conservée, qu'elle soit envoyée dans les générations futures et on continue à regarder ces photos. Qu'est-ce que tu voudrais, juste pour poser cette question-là et pour essayer de valoriser un peu ton travail, puisque tu, comme tu le dis toi-même, c'est pas très très facile de le valoriser, mais qu'est-ce que tu voudrais dans 50, dans 100 ans, dans 200 ans, quelqu'un qui ouvre un tiroir et tombe sur une photo de tes arbres, qu'est-ce que tu voudrais qu'il en pense ?
Je ne sais pas, parce que déjà, il faudrait qu'elle soit peut-être un peu mieux légendée.
Est-ce que tu crois qu'il est nécessaire de mettre une légende sur une photo pour qu'elle soit comprise ?
Pas tout le temps. Quand je dis légende, c'est peut-être, j'allais dire le copyright, mais peu importe. Mais par exemple, je préfère donner des idées, pas ce qu'on va ressentir 200 ans plus tard sur mon travail, parce que j'en suis pas là. Je suis au présent. C'est quand moi, je me retrouve devant des archives photographiques donc anciennes, dont certaines, par exemple, j'ai numérisé des plaques stéréo de la vallée de la Vézère et de la Dordogne des années 1920-1930. Je suis le seul à les avoir numérisées. Ça peut faire une très belle exposition. Les plaques, elles sont numérotées, elles sont légendées. Le nom de l'appareil, l'objectif et tout, quoi. Le côté technique, photographique, en 1900. Et c'est fabuleux. Et par contre, si tu as une image où il n'y a rien d'écrit, je ne parle pas d'un message. C'est encore autre chose. Oui, si, pourquoi pas une légende. J'ai par exemple dans mes collections une expo, des tirages noir et blanc en 1824, des Alpes, de Chamonix, du Mont Blanc, des Alpes italiennes, tout ça. J'en ai 50, 60, 100. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne vais pas les jeter. J'ai envie de les offrir ou de créer une exposition d'un photographe inconnu à une certaine époque, dans les années 40-50 là-bas. Et par contre, on ne sait rien de l'image. Alors que justement, avec 50 ans de recul, ben ça va intéresser qui ? Ça va intéresser les géographes, les historiens, ça va intéresser les sismologues ou autres, parce que c'est la montagne. Tu vois, c'est ça aussi. Et puis aussi les climatologues. Parce que quand tu as une photo il y a 50 ans de la mer de glace à Chamonix et que maintenant la mer de glace, il n'y en a plus beaucoup, on se pose des questions sur notre devenir, sur le devenir de la planète. La planète, elle est forte. Je mélange un peu tout, mais
on comprend bien quel est ton ressenti. Mais
tu sais, quand tu me dis qu'est-ce que je voudrais que ressentent les gens en voyant mes images, déjà le numérique dans 200 ans, j'ai peur de façon qu'on les voit pas. Déjà, on aura changé les formats, les machins, on aura du mal à trouver les images. Je sais pas, on verra bien. Tandis que l'argentique. 150 ans plus tard, l'argentique, le noir et blanc ou la diapositive, l'ectachrome ou kodachrome, elles sont encore excellentes si elles sont bien conservées et bien développées. Et je dis aux gens qui nous écoutent que si vous avez des beaux tirages de vos meilleures images, que ce soit de famille et d'autres, faites des tirages, mais de préférence haut de gamme. Pas de ce qu'on fait à la va-vite parce que dans 10 ans il n'y aura plus rien. Donc faites des beaux tirages où on va vous garantir que l'encre tient 150 ans, par exemple, si vous voulez. On sera plus là.
Enfin là-dessus, Jérôme, je vois que tu parles donc de cette image photographique parfaitement. Tu nous as dit avoir parcouru le monde aussi. Et tu l'as parfaitement photographié, mais tu l'as dans ta tête. Tu l'as aussi sur le papier, puisque tu as les photos, mais tu as photographié tout ça dans ta tête. Est-ce que tu pourrais nous donner un passage de justement tes tours du monde ou tes voyages ou tes déplacements lointains, une image qui te vient comme ça en tête de quelque chose justement de marquant sur ce phénomène écologique ou sur ce phénomène de la planète?
Entre autres, oui, c'est un petit champignon, tout petit champignon de 5 mm. En forêt pluviale de Tasmanie, Australie, la petite île au sud de l'Australie, parce que bien souvent on fait la différence, là on se trompe avec la Tanzanie en Afrique. Et en forêt pluviale, une fois j'étais au bord d'un ruisseau et puis j'ai vu des petites taches bleutées au bord de l'eau. Puis je m'approche et puis je me suis senti observé. Quand même, je regardais autour de moi, mais c'était devant moi que je me sentais. C'était devant moi. On m'observait, c'était ces petites taches bleutées, des champignons qu'on appelle des mycènes, Mycena interrupta. Et je les appelle un peu les yeux de la forêt. Tout minuscule, je me disais, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que j'aurais vu? Les beautés de la planète et la déforestation en Australie et dans le monde et la connerie humaine. Voilà, c'est ça que c'est un peu ce que je ressens dans mon ressenti. J'ai des souvenirs superbes aussi de Madagascar ou d'Afrique du Sud, du Kenya, de plein d'endroits. C'est difficile, Madagascar. Des enfants que j'ai photographiés sous les baobabs et qui voulaient, ces enfants-là, qui voulaient que regarder à travers l'appareil photo. Ou alors, j'avais l'argentique, un gros matériel et le numérique. Et je leur montrais des fois, en même temps que je leur montrais une photo numérique avec l'écran escamotable, je les photographiais. Et ça faisait des images, par exemple, ça, je les ai pu parce que ça a été volé en Afrique. Ça faisait des photos de 40 enfants devant moi dans une petite pièce de 10 mètres carrés. C'est l'émotion, quoi. C'est fabuleux. Mais ce n'est que dans ma tête, c'est là. Et la leur, sûrement, même. Ils ont grandi ou pas, ils sont vivants, décédés, on ne sait pas. Donc des petites choses comme ça. Et
tout au long de tes voyages, finalement, tu as gardé ces images en tête. Toi, le photographe qui a l'habitude de les capturer, tu as gardé en tête toutes ces images qui te permettent maintenant de revenir vers justement là, une sorte de progression. Puisque tu pars de ces images que tu as capturées autour du monde, donc des différents, comme tu disais, écosystèmes, forêts, etc., des images que tu nous ramènes à nous, qui n'avons pas vu, moi personnellement, j'ai jamais voyagé en forêt équatoriale, j'ai jamais vu toutes ces choses-là. Non, mais bon, ce que je veux dire, je n'ai jamais été dans les pays où tu as été, voir les images que tu as capturées, donc tu nous les ramènes, et c'est tes impressions que tu nous ramènes. Justement, ramener, et j'essaye de passer à l'écologie, puisque Cécile est avec nous, il va falloir maintenant qu'elle intervienne et qu'elle en parle un peu, puisque nous avons une invitée qui n'est pas que Jérôme Hutin aujourd'hui, puisque nous avons Cécile à côté de nous, qui va nous parler et qui va se présenter, et en même temps nous parler d'écologie et puis un petit peu de l'humain. On va parler un peu d'humain. Ça va faire beaucoup de bien aussi dans le discours. Jérôme, donc cette écologie, ces écosystèmes, est-ce que tu peux nous parler justement de l'importance de l'écosystème, de la préservation de l'écosystème pour que la nature soit toujours là? Pourquoi est-ce qu'un écosystème est nécessaire?
Je vais faire pas une allusion, mais une image très, très, très simple d'un film qui est Soleil Vert. Ou à New York... Il reste un seul arbre, peut-être dans le monde. Est-ce que c'est ça qu'on veut? À l'allure où va notre société, je ne veux pas être trop pessimiste, mais on a encore beaucoup de travail, on a fait beaucoup de progrès, mais qu'est-ce qu'on veut pour la préservation de cette planète, de ces écosystèmes qui sont riches, même des fois dans un centimètre carré. C'est incroyable, la vie, la puissance présente. Même une fois, quand j'ai parlé la dernière fois du petit sourire, du petit insecte, le colombole, qui fait 0,3 mm et qui nous sourit, qui dit, c'est pas une allégorie, mais comment on pourrait dire. Moi, je le vois sourire, d'autres gens le voient sourire, des enfants le voient sourire, je crois que c'est un dessin. Une fois, là, à mon atelier à Terrasson, j'ai photographié quelques personnes l'année dernière avec, et derrière, j'ai marqué « fuck pesticide ». Allez vous faire foutre les pesticides, pardon, excusez-moi, mais c'était ça.
Ça, c'est pas poli, non, c'est pas poli.
Ça en a fait rire quelques-uns. Mais il y en a un qui m'a dit, mais il est encore vivant, avec tout ce qu'on met sur cette planète. Voilà.
Donc tu m'as gentiment...
Je veux pas faire... J'ai pas à faire de leçons, parce que je suis pas du tout parfait là-dedans. Je suis pas du tout parfait au niveau écologie.
Tu m'as demandé de ne pas être seul pour cette émission, donc tu as invité quelqu'un. Est-ce que tu peux présenter la personne qui est à côté de nous ?
Non, je ne vais pas la présenter. Je pense que Cécile, qui est présente, va se présenter d'elle-même.
Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi tu as demandé à ce qu'elle soit présente ?
Oula.
Pour ses qualités humaines ?
Sûrement. Qualité humaine, écologique, pour son peut-être sa ténacité qui va revenir, pour la musique,
pour pouvoir finalement donner, voilà, mais là c'était un peu la question piège, Jérôme. Donc on va laisser Cécile se présenter. Cécile, est-ce que tu peux t'avancer vers le micro et puis te présenter, nous faire un petit CV express.
Bonjour, oui, je suis Cécile. Je parle pas assez près du micro. Voilà, ça répond, c'est bon, comme ouais. Ça. J'ai une formation de géographe, d'enseignante aussi. J'ai un regard un petit peu différent. Lorsque j'ai fait la connaissance de Jérôme, il m'a montré ses expositions sur les arbres, etc. Donc ça m'a intéressée. Mais en même temps, enfin, moi j'ai ce regard d'écologie pratique aussi qui me touche davantage, parce que ce que j'ai observé en fait dans le discours de Jérôme et aussi ses photos, c'est que c'est il y a de belles images. Mais ce que je lui dis souvent, c'est que, quand on parle d'arbres vénérables, etc., c'est surtout après, quand il est sur une photo, il est sorti de son contexte. Et donc, c'est pas toujours facile de lui attribuer le statut d'arbre vénérable s'il n'est plus. Il est tout seul, après il ne sert plus à grand chose sur la photo en fait. Pour moi, je pense qu'il y a un discours. Enfin, il y a la photo, le côté esthétique. Mais après, pour le discours, pour moi, j'ai un peu de mal à vous. Ce que je ne comprends pas toujours très très bien, c'est de voir. Le regard, je pense que Jérôme est à cheval sur entre le regard journalistique et artistique, en fait. Voilà. Donc parce qu'effectivement, son discours sur sauver la planète, etc. Mais pour moi, la grande question, c'est est-ce qu'on peut faire de l'art avec quelque chose qui est en danger ? Pour lui, l'arbre est en danger, l'arbre est, la planète est en danger. Mais après, on peut aussi avoir un regard positif. Et je pense que c'est ce qui lui manque, peut-être, c'est le regard positif, constructif. Et c'est pour ça que dans les discussions que je peux avoir avec lui, c'est l'écologie pratique. Où est-ce que toi tu en es par rapport à ta démarche d'écologiste, c'est-à-dire est-ce que tu as un jardin, est-ce que comment tu dis que tu as des arbres, etc., qui attendent d'être plantés, est-ce que tu as, enfin voilà, des petites choses comme ça. D'abord, je pense que c'est on cultive notre propre jardin. C'est très très important d'avoir de mettre les mains dans la terre et pas uniquement avoir un discours. Voilà. Enfin, donc je veux pas casser le discours de Jérôme, mais je pense qu'il y a besoin de se recentrer très souvent pour dire où est-ce que je suis moi par rapport à tout ce que je suis en train de dire, de penser, etc.
Est-ce qu'il est simple, tous les deux, je vais vous poser une question à tous les deux, aussi bien pour une géographe, c'est-à-dire quelqu'un qui est, on va dire, logique, mathématique, puisque qui est quand même pragmatique, voilà, et un artiste qui, lui, est plutôt dans la création, dans l'invention, on va dire, plus dans la création, on va rester comme ça, d'arriver à trouver des points communs justement sur cette fameuse écologie, c'est-à-dire sur cette conservation de la planète. Est-ce que tout le monde peut avoir un regard qui va permettre d'homogénéiser ce besoin d'écologie, cette conservation de la planète et de pouvoir ensemble conserver la planète?
Qui répond?
Là, c'est compliqué. C'est-à-dire que comment on fait justement pour avoir le même regard sur l'écologie, puisque là, j'ai deux personnes différentes. C'est un peu ça que je suis en train de recouper, puisque j'ai quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est créatif. Comment vous arrivez à dialoguer ensemble?
Attention, pragmatique, ça ne veut pas dire pas être créatif du tout. Hein.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, il y a quand même deux approches qui sont une très artistique et l'autre quand même. Créatrice, je suis d'accord, mais qui est beaucoup plus pragmatique, qui est plus sur l'enseignement, sur l'apprentissage. Voilà.
Et c'était quoi ta question?
Comment on discute d'écologie ensemble? C'est-à-dire que moi qui suis, par exemple, dans des systèmes binaires, comment je peux arriver à discuter d'écologie avec quelqu'un?
Pour moi, c'est au quotidien, c'est dans chaque geste que je fais. C'est dans chaque pensée que j'ai, c'est dans chaque regard que je vais porter sur chaque chose. En fait, c'est là que se porte pour moi l'écologie. C'est-à-dire, c'est une écologie politique. Donc, c'est un acte politique au sens avec un P majuscule. Pour moi, c'est ça la politique écologique, enfin écologiste. C'est-à-dire mettre tout. Tout mon cœur dans chaque chose que je vais faire. Donc effectivement, et pour moi, donc c'est pour ça que je reviens sur la petite parenthèse de dire pragmatique, ça veut pas être forcément, enfin ça n'exclut pas la création, parce que tout est création. Chaque respiration qu'on va aussi avoir peut être aussi une forme de création. Comment est-ce que je respire? Comment est-ce que j'aspire la vie? Et comment je l'expire, c'est-à-dire comment est-ce que je vais la mettre en pratique. Voilà, donc pour moi, c'est ça. C'est un acte, c'est en permanence, donc c'est peut-être ça aussi, avoir les pieds sur terre. Tout ce qui va être fait, pensé, etc., c'est fait avec le cœur. Donc forcément... il faut que le regard soit beau. Et donc, c'est là le... Enfin, bon, voilà, je veux pas...
Oui, non, mais je te vois vraiment convaincu de ce que tu dis. Ma question, elle était en deux parties. Voilà la deuxième, et vous allez la comprendre beaucoup plus facilement. Nous sommes quelques milliards d'êtres humains sur la planète. Vous êtes bien d'accord avec moi, l'un comme l'autre. Et donc, ma question, elle coule de source... C'est comment on fait, puisque l'écologie, c'est la conservation de la planète, comment on fait à plusieurs milliards pour avoir la même idée et pour pouvoir avoir le même élan de conservation de la planète? Est-ce que ça passe par tes images, Jérôme?
Pas seulement, non, je pense. Non. Ah non. Non, pas seulement l'image photo, la photographie. J'ai du mal à y répondre, en fait.
Mais est-ce que toi, tu voudrais justement que les gens se fédèrent derrière tes images? Justement, ces arbres vénérables sur la conservation, c'est-à-dire sur un moment donné, dire je voudrais avoir cette vision de la nature, cette vision de la terre, et d'en avoir pas une, parce qu'il y a plein de paysages aussi, il y a des milliards de paysages,
oui.
Mais il y a des milliards d'êtres humains, et qu'à un moment donné, chaque être humain a le droit de profiter
et
de
pas,
chacun des
et
paysages, et il n'en est pas propriétaire.
Et pas que l'être humain.
Oui,
l'être
animaux,
vivant, l'être vivant en général, donc les êtres vivants, c'est ça l'écosystème, c'est un tout.
Et pour toi, Cécile? Comment?
C'est peut-être c'est à chacun de voir où il en est par rapport à tout ça. Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de. Je pense qu'il faut pas se donner, se positionner en tant que donneur de leçons. Chacun est à son étape ou son niveau de développement, de réflexion, etc. tout le monde n'est pas forcément. Pour moi, les arbres vénérables, comme Jérôme parle, moi je me dis c'est un point de vue. Il y a des milliards de points de vue. Voilà. Moi j'ai mon passif d'enseignante. Je passais des documents, des vidéos, etc. pour éveiller les enfants, les élèves, mais après, maintenant, je me dis que la meilleure des choses, c'est de mettre la main à la terre, chacun cultiver son propre jardin, physique et pourquoi pas, personnel, quoi. Enfin voilà, chacun doit être.
Chacun doit être acteur.
Acteur de sa propre. Sur Terre. Et voir où il en est par rapport à tout ça, quoi. Voilà. L'écologie, ça veut dire tout et rien à la fois, quoi. Donc, c'est la définition qu'on porte. C'est un beau mot, mais en fait, qu'est-ce que ça veut. Enfin, qu'est-ce que ça implique pour chacun, quoi.
Jérôme, quand tu es parti autour du monde comme ça, est-ce que tu as eu des visions de paysages ou de villes ou d'endroits sur la planète très très pollués par exemple, des endroits défigurés, on va parler de ça comme ça, allez rapidement, comme disait Cécile tout à l'heure. Il y a des fois des images qui sont plus positives ou négatives. Là, on va parler de la négative carrément. Est-ce que tu as vu des paysages défigurés? Est-ce que tu as vu des endroits vraiment saccagés? Non pas saccagés parce qu'on a arraché les arbres, parce qu'on a tout labouré, simplement saccagés par la présence de plastique, par la présence de choses qui ne sont vraiment pas belles et qui sont vraiment d'invention humaine.
Bien sûr, pour les dépotoirs à ciel ouvert, j'en ai vu au Chili, j'en ai vu ailleurs, sur la déforestation dans l'Ouest canadien, dans tout le continent de l'Ouest américain, dans tout l'Ouest américain, les grosses déforestations, avec les séquoias qu'on a bas, sans le savoir, pour autant ici, on n'a pas besoin d'aller là-bas, des fois, faut voir aussi ce qui se passe localement chez nous, parce que c'est pas beau à voir. Surtout en ce moment en Corrèze. Mais bon.
Tu peux en parler, Jérôme. Hein. Avance sur le sujet.
C'est... Oui, c'est pas des leçons, mais je veux dire que. Pour dire à Cécile et à toi, Alexis, et à ceux qui nous écoutent, quand on parle d'arbres vénérables, ça a mis quelques années pour chercher le terme qui existait déjà. Le vénérable, c'est le maître. C'est le maître. Des loges maçonniques, c'est le maître du lieu, c'est le. Je ne suis pas un maître, faut savoir ça, rien du tout. Même. L'arbre, lui, c'est un maître. Et on abat des maîtres au bord des routes corréziennes en ce moment. On abat des. Que ce soit des arbres vénérables, que ce soit des arbres remarquables, que ce soit des trésors. Tout ça en ce moment pour cette histoire de fibre optique, pour cette histoire parce qu'il y a des feuilles, il y a de l'eau qui coule sur les feuilles, et après ça fait des gouttes d'eau qui tombent sur le goudron, et que les routes apparemment ont une durée de vie 30 ans inférieure, donc comment dire, 30 ans de moins. Il faut arrêter, quoi, il n'y a aucune expertise là-dessus. On va où ? Quand je regarde et que je vois que tous ces arbres décharnés, abattus, mal élagués, et qui jonchent le sol, même si ça a toujours existé, hein, l'exploitation forestière et autres, d'accord. Mais là, pourquoi ? Alors que c'est même pas une obligation, quand on veut mettre une fibre optique, on n'est pas obligé d'abattre. Mettre en sécurité, élaguer, d'accord. Mais pas faire un massacre, comme c'est le cas partout en Corrèze. Ce qui se passe, le souci, c'est que ça risque de se généraliser sur toute la France. Et est-ce que c'est mieux de voir des poteaux ? Tiens, d'ailleurs, vers la cascade de Gimel, j'ai vu deux petits panneaux assez sympathiques, écologistes. Concernant, nous avons deux réseaux de télécom. Donc deux poteaux, deux compagnies. Il est où le problème ? Il y a une grosse erreur économique là. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il est préférable de voir des poteaux au bord des routes et plus d'arbres, même s'il y en a encore sur les côtés, plus loin, tout ça, au niveau de l'esthétique du paysage de la France, parce qu'il y a les poteaux, puis après il y a les panneaux publicitaires et tout ça. C'est lamentable, quoi. On bousille notre vivant.
Est-ce que pour toi, la protection de la nature, parce que tu parlais d'activistes tout à l'heure, c'est des gens qui sont un petit peu dans l'extrême quand même. Est-ce que tu crois que maintenant, avec l'excès justement d'un côté de cette déforestation, de cette coupe sauvage, d'enlever tout ce qu'il y a, qu'un arbre sauvé, c'est un petit bout de la planète qui l'est aussi ?
On n'enlève pas tout ce qu'il y a, on enlève des arbres au bord des routes qui sont pourtant des repères importants, des repères historiques, des repères botaniques, des repères dans le paysage et des repères même pour le conducteur, même s'il y en a qui se prennent un arbre dans la gueule parce que, excusez-moi, pour ceux qui sont plus de ce monde, c'est pas la faute de l'arbre, on le sait très bien. Donc, petite histoire, un motard du Gers a perdu sa vie sur les platanes. La famille aurait pu porter plainte et faire abattre tous les platanes. On a créé une association pour préserver les platanes et mettre des doubles glissières de sécurité, par exemple. Ce que je trouve en même temps bien en ce moment, ce qui se passe en Corrèze et ailleurs, peut-être, c'est que certaines personnes se mobilisent, quand même. Même si la tronçonneuse, ça va trop vite. Vraiment trop vite. Ça met 10 minutes à abattre un arbre de 200 ans. On le couche au sol, c'est fini, quoi.
C'est vrai que cette approche écologique, elle est compliquée. C'est-à-dire que là, on va parler un peu de la photographie, c'est-à-dire de ramener cette image, de l'exposer, comme tu le fais à Terrasson, dans ton studio, et de parler aussi de cette importance de la conservation du vert, du naturel. Parce que quand on parle du naturel, finalement, c'est tellement compliqué à dire, il faut conserver ces choses qu'on peut détruire, puisque ça se renouvelle automatiquement, finalement, quand on réfléchit bien à tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas de propriétaire, entre guillemets. Mais bien qu'on se soit séparé la terre parcelle par parcelle, en disant, ça c'est chez moi, j'en fais ce que je veux, mais est-ce qu'on a le droit de faire ce que l'on veut de sa planète et de son bout de planète ?
Non, nope, on n'a pas de droit. Sur le vivant, on ne devrait pas avoir de droit sur le vivant. Non, en tout cas, le seul droit qu'on ait, c'est d'arriver à mieux le préserver, arriver à mieux vivre en société. C'est difficile, c'est très difficile. Voilà, des choses simples. Un arbre en limite de propriété, le voisin porte plainte, il gagne, parce qu'il ne veut pas l'arbre de l'autre côté de la propriété, de sa propriété à 2 mètres. Alors que c'est bénéfique, toujours. Un arbre, c'est bénéfique. Ça apporte tellement de choses. Ça apporte l'oxygène, ça apporte la vie, ça apporte le chant des oiseaux. C'est ça aussi, l'écologie, pas seulement pratique, ou au quotidien. Maintenant, je veux dire, Cécile, par exemple, a le droit de me, je sais pas, de me rebrousser les poils, de me booster, de... de dire des choses qui vont me, comment dire, pas me déplaire, peut-être m'éveiller, me réveiller. Il est vrai, par exemple, j'essaie de, je dis aux autres qu'il faut préserver les arbres, je lance des messages sur faire classer les arbres au patrimoine mondial. Et dans ma terrasse de 20 mètres carrés sur du béton, c'est même pas ma terrasse, c'est pas chez moi. Je n'ai pas de chez moi, j'ai un toit, je suis dans un appartement, c'est pas chez moi. Et j'ai des arbres dans des pots qui demandent, et je le ressens tout le temps, qui demandent à être plantés. Sauf que moi, c'est pas que je veuille les garder, c'est pas ça, j'en ai à offrir. Dans mes projets de livres, de concepts, un livre vendu, un à planter, par exemple, j'ai pas encore planté les arbres. J'en ai 50, 100 peut-être, et même j'en voudrais bien plus, mais qu'ils soient vraiment plantés en pleine terre. Il faut des terres pour ça, il faut des lieux. Il faut des lieux où l'amour est présent, où l'amour de la terre, l'amour de la vie, l'amour de l'arbre, pour des siècles. C'est quoi? C'est pas facile. C'est là qu'à l'heure actuelle, quand on parle de la société, de l'urbanisation intensive, vous avez par exemple à Terrasson même, en face de la clinique vétérinaire, un très beau chêne. Le terrain est à vendre. Il est devenu en zone constructible qu'il ne l'était pas avant. Qu'est-ce qu'on va faire du chêne centenaire? On va le foutre par terre? Ou on crée un jardin partagé, justement, je sais pas. Moi, j'ai des arbres, oui, j'ai des arbres dans des poubelles, dans des pots que je veux pas qu'ils restent là-dedans. Je veux qu'ils soient plantés, qu'ils soient plantés pour les prochains siècles. Et j'ai des maraudiers qui proviennent du plus gros marronnier de Levallois-Perret, qui fait 5 mètres de circonférence. J'ai un petit noyer du plus gros noyer de Suisse, qui lui-même fait 6 mètres de circonférence, 7 mètres. Les arbres sont petits. Mais dans la génétique de l'arbre, il y a pour certains une résistance incroyable. Donc voilà, j'aimerais, sur ceux qui nous écoutent, le long de la Vézère, par exemple, ben, si vous avez des beaux terrains à proposer, qu'on puisse planter ces arbres-là. Je sais que les agriculteurs plantent beaucoup. Au niveau productivité, que ce soit le noyer, que ce soit les différents arbres fruitiers. Mais c'est pas ça que je recherche pour l'instant. C'est un lieu même, voire créer un arboretum, pourquoi pas. Ou quelqu'un qui a déjà un arboretum et qui aura de la place pour de futurs grands arbres.
Bon, Jérôme, Cécile, il va falloir qu'on conclue l'émission, puisqu'on va, elle va gentiment toucher à sa fin. Jérôme, tu as énormément d'actualités. J'aimerais que tu nous en parles quand même, puisque là, on a parlé d'écologie, on a parlé de photographie, on a parlé un petit peu de l'humain quand même avec Cécile, de cette approche humaine, d'avoir cette vision de ce qui nous entoure, de la nature qui nous entoure, à dire pourquoi pas créer un jardin, pourquoi pas justement redonner à la nature un peu de positif. Jérôme, tu as énormément d'actualités. Si les gens veulent justement venir partager avec toi cette passion des arbres et cette passion de la nature, quand est-ce qu'ils peuvent le faire?
Et en appuyant sur la petite sonnette aux 4 rues de la Liberté, dans la ville ancienne de Terrasson, je plaisante, mais c'est vrai, quand les portes sont ouvertes de l'atelier photo, juste à droite en bas de l'église. On peut me rejoindre aussi très prochainement à Gourdon du 27 avril au 13 mai et à Bois Passion dans le 12 mai, projection géante sur l'église Saint-Pierre de Gourdon. Et il y a aussi, quand je reviens à la rue de la Liberté à Terrasson, un beau projet. Est-ce qu'il va naître, une graine qui naîtra, qui va grandir, un beau projet où on serait pouvoir un collectif, plusieurs, créer un tiers-lieu, créer un lieu pour la création, le recyclage, voire une recyclerie, pourquoi pas, en commençant par là, créer des rencontres. Que ce soit, oui, que ce soit la photo, que ce soit la peinture, que ce soit la musique et tout ça. Et le lieu est là. Le lieu est là. Il y a un propriétaire. C'est pas moi. Et puis après, est-ce qu'il peut y avoir des conventions propriétaires, municipalité ou pas? C'est un sacré challenge.
Donc tu aurais bien besoin de soutien.
Je crois qu'on a besoin d'immenses soutiens pour ce lieu.
Cécile, toi, c'est une activité personnelle que tu as ou c'est une activité pseudo-professionnelle? Parce que tu as un super sourire, un super regard, t'es reposé, t'es bien. C'est ton activité qui fait ça?
Je ne sais pas. Je sais pas quoi répondre en fait. Je fais de la relaxation, donc c'est peut-être ça qui fait que je peux peut-être avoir ce discours là, peut-être plus posé. J'ai été plus activiste dans ma vie, dans mon ancienne vie, on va dire. Et puis je me suis dit que finalement, à force de se battre, ça mène pas à grand chose. Et je préfère je préfère être jardinier de la vie, en fait. Voilà. Donc semer des graines. Et je pense que ça peut être. Ça ne peut être que positif. Voilà. Et après, j'avais juste une petite réflexion à donner, en fait, sur. Puisque je suis nouvelle à Terrasson, j'observe, donc je regarde comment fonctionne la ville. Je la trouve un peu coupée en deux. Et je pense que l'écologie, ou le regard vert comme la couleur, que l'on pourrait avoir sur la ville et qui pourrait rassembler les gens, c'est la Vézère, donc voilà, le fleuve. Et je suis un petit peu surprise, la rivière, je suis un petit peu surprise de voir que la plaine de Jeux est loin, tout au bout, et inaccessible en fait à pied du centre-ville. Et je trouve que ça pourrait être vraiment, vraiment sympa de construire de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un chemin. Une petite coulée verte ou quelque chose depuis le centre-ville de Terrasson jusque là-bas. Je ne sais pas de quel côté de la rivière, de quelle rive ça pourrait se faire, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les piétons de ce côté-là, je trouve. Donc je marche, mais on est assez loin de la rive, de la Vézère. Mais pas tout près. Et moi, j'aime bien être au bord des rivières ou des fleuves pour. Et là, on peut pas vraiment s'approcher de la Vézère. Voilà.
Eh bien, entre les photos de Jérôme qui donnent un retour sur la nature, si on n'aime pas marcher dans la forêt, finalement, on peut voir les arbres quand même, à travers de ton regard, Jérôme. Donc, merci de ce côté-là. Et puis. Cécile, toi, c'est ton regard et ta réflexion qui permet de faire avancer cette petite parcelle écologique en disant que finalement, en discutant tous, en communiquant tous et en essayant de voir qu'on est tous sur la même planète et qu'elle ne nous appartient pas, elle appartient aux générations futures, on arrivera certainement à en faire quelque chose.
Elle appartient à la planète.
Elle est pas, oui, aussi. Voilà. Mais bon, l'héritage est là aussi. Non ?
Oui.
Merci beaucoup. On se retrouvera, nous, mercredi prochain sur l'antenne de Radio Vallée-Vézère. Merci d'être resté avec nous pour cette émission. Merci Jérôme d'être venu.
Merci à vous tous.
Et merci Cécile.
Merci Cécile. Merci.
Et puis on se retrouve sur l'antenne de Radio Vallée-Vézère. Donc je vous l'ai dit, mercredi prochain. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de l'émission. Et puis n'oubliez pas, Jérôme Hutin, c'est à Terrasson, c'est Place de la Liberté. Et il y a